D'une impasse délabrée d'une zone industrielle désaffectée, gisent les ruines d'un data center éteint. Pour se donner des frissons, des enfants du numérique y rentrent nuitamment par effraction. Et devant les braises d'un Minitel fumant, se racontent des histoires inavouables qu'on n'ose même pas évoquer sur un Slack. Mais ils ne savaient pas que la salle serveur où ils commettaient leurs actes profanes était hantée. Screech, et je vais vous raconter l'histoire du mauvais bouton. En 1999, on avait tous peur du bug de l'an 2000. Ouais, je sais, je suis un petit peu vieux, mais... Ce bug, il allait à coup sûr nous plonger dans le noir, faire s'effondrer les ascenseurs et nous faire venir en l'an 1900. En 1999, c'est aussi la première année que Jérémy travaille dans une vraie équipe technique, l'équipe informatique d'un très, très gros éditeur... avec des moyens conséquents, des schémas de décision précis et des enjeux financiers sur des grandes décisions informatiques. Avec son équipe, il travaillait pour s'assurer la conformité en 2000 de toute l'entreprise, s'assurer que le bug n'avait aucune prise, jusqu'à la multiprise qui devait être safe. Il fallait planifier, contrôler chaque élément, des feuilles de tableur jusqu'au BIOS des routeurs réseau. Et donc Jérémy est descendu avec ses collègues dans la salle serveur. Des serveurs étaient déjà passés de mode, mais ils travaillaient vaillamment et sans faille pour l'entreprise, avec leurs entrées de courant redondées et leur plan d'amortissement comptable sur 5 ans. Ces serveurs avaient un bouton power qui était planqué dans un tout petit trou, accessible qu'avec un trombone, un tournevis ou un stylo. Le constructeur avait prévu d'éviter qu'en se retournant d'un coup de coude, on éteigne un serveur par erreur. C'est bien. Le bouton avait deux positions et il était volontairement difficile à manipuler car il était le point unique qui pouvait tout couper, malgré les deux arrivées différentes de courant. Donc, sur ces serveurs, il fallait appliquer les patchs sur les Windows NT et les BIOS des serveurs, les uns après les autres, sur tous les serveurs du petit data center. Il fallait donc prévenir les utilisateurs de ce serveur par un email. Comme quoi il y a une intervention planifiée qui va avoir lieu, puis sur la console, cliquer sur « Démarrer » pour éteindre chaque Windows. Et quand Windows te dit vaillamment que tu peux éteindre la machine, tranquillement, puisque même les disques durs sont parqués, à ce moment-là, tu peux aller sur le serveur, appuyer sur le tout petit bouton pour couper le jus. Puis tu enfonces à nouveau le tout petit bouton pour remettre le courant et ramener à la vie le serveur. Que son Windows finisse l'installation des patchs pendant le démarrage et quand le serveur a bien redémarré, s'il redémarre bien, il faut écrire à tous les usagers du serveur pour lui dire que tout est revenu à la normale. un cycle d'opérations à faire pour chaque serveur, pour chaque blade de la baie et pour chaque baie de la salle serveur. Il avait passé le 100e serveur sans encombre. Jérémy dit pour la 100e fois à son collègue Sam « Ok, celui-là, tu peux l'éteindre. » Horreur ! Jérémy s'était trompé. Il ne regardait pas l'état du serveur 112, mais du 113. Le serveur qu'il a indiqué à Sam était un serveur SAP de production. Celui qui assurait toute la compta, la trésor, les commandes, les expéditions de toute la boîte. D'un groupe de publications de journaux, de livres, de magazines. Et vu comment SAP était à l'époque, s'il était brutalement interrompu, les bases de données pouvaient être irrémédiablement crashées, totalement irrécupérables. Ce qui signifiait revenir au dernier backup qui datait de... Ok, vaut mieux pas perdre cette base de données là. Heureusement, quand Jérémy s'en est rendu compte, Sam appuyait encore sur le bouton. Reste appuyé ! Hein ? Reste appuyé sur le bouton, je me suis trompé, c'est pas du tout le bon serveur ! Sur ce modèle de serveur, quand il est allumé et qu'on appuie sur le petit bouton pour l'éteindre, le courant continue à circuler tant qu'on n'a pas relâché le bouton jusqu'à ce qu'il se trouve en position off. Donc tant qu'on reste appuyé dessus, le serveur reste allumé. Et donc tant que quelqu'un maintenait le bouton poussoir, le serveur SAP n'est pas brusquement éteint. Il a fallu appeler en urgence chaque utilisateur des applications SAP de l'entreprise, leur demander qu'ils se déconnectent dans l'immédiat sans discuter. Et rester crispé et appuyé sur ce satané bouton avec ce trombone. Sauf que le service comptable devait impérativement finir la déclaration annuelle. Et comme chaque année, les patrons et les commerciaux avaient attendu le dernier moment pour fournir leurs notes de frais, qu'il fallait tout saisir dans l'exercice comptable courant. Courant. Les heures furent longues. Sam, celui qui maintenait le bouton appuyé, commençait à cramper. La nuit arriva, puis passa. Puis une autre journée. Et quand enfin le service compta eut terminé, il fallait que les administrateurs SAP interviennent pour effectuer une procédure d'extinction spécifique en 243 checkpoints. On dit que le bras de Sam qui maintenait le bouton était tellement crispé par la rigidité cadavérique qu'ils furent obligés de retirer son corps pour effectivement éteindre le serveur. Une opération malaisée dans l'espace exigu et pas uniquement à cause de l'odeur. Jérémy se souvient encore du vertige car il a interverti les serveurs 112 et 113, du râle de son collègue Sam « Sois maudit !» Et depuis, il a hanté chaque nuit, même après le réveillon de l'an 2000, même 18 ans après.
We'll be right back.
Squat, un data center hanté, bienvenue dans les logs de la crypte.
Bonjour. C'est avec la gorge serrée par la peur et la honte que je me présente à vous, sous couvert d'anonymat. Je suis un ingénieur diplômé d'une grande école qui totalise pas moins de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique bancaire et financière. J'ai débuté ma carrière en 1998 dans une société spécialisée dans les marchés financiers. Cette année-là, mes anciens camarades d'école commençaient déjà à s'inquiéter du passage à l'an 2000, synonyme d'un potentiel réveillon de la Saint-Sylvestre et jour de l'an à passer au bureau. Tout ceci dans l'hypothèse où, bien entendu, nos centrales nucléaires ne venaient pas à exploser à cause d'un bug et en éradiquant toute forme de vie de notre planète. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher d'esquisser un sourire moqueur et de leur dire ce qui m'attendait, moi. Moi, ce qui m'attendait, ce n'est pas un, mais deux changements d'année aux conséquences inconnues. Ce que je n'avais pas anticipé, cependant, c'est que j'allais en vivre un troisième, bien malgré moi. Pour la plupart des gens, le passage à l'euro correspond à l'introduction des pièces et billets à compter du 1er janvier 2002. Mais en réalité, un premier passage à l'euro a été réalisé en 1998 sur les marchés financiers. La société qui m'employait était donc en première ligne. J'ai donc passé mon réveillon du 31 décembre 1998 avec mes collègues de bureau, à boire du mauvais mousseux accompagné de petits fours surgelés, dans l'attente frénétique du taux de conversion franc vers euro. L'introduction des nouveaux produits financiers dans nos systèmes et les vérifications méticuleuses en suivant, dans l'angoisse qu'un bug non éradiqué devienne responsable d'un désastre financier qui, en comparaison, ferait passer l'affaire Jérôme Kerviel pour un vol à l'étalage. Au final, tout se passe à merveille. Bref, fort de cette expérience, c'est avec sérénité que j'ai accueilli l'année 2000. La station spatiale Mir avait finalement décidé de rester là où elle était. La fin du monde n'était pas pour cette fois, apparemment. À mon niveau, RAS, tout se passe sans accroc. Mais voilà, appelez ça le karma, le destin, la faute à pas de chance, bref, peu importe, il était écrit que je m'en sortirais pas aussi facilement. En 2003, je déménage sur Toulouse pour intégrer une start-up œuvrant dans le domaine du paiement par carte bancaire. J'y suis embauché comme développeur. Et malgré la croissance de la société qui m'a de facto propulsé vers un poste de management, je code toujours sur les systèmes bancaires. Et me voilà en 2009, le 31 décembre, pour un réveillon en famille. Au petit matin du 1er janvier 2010, je reçois un appel de mon patron m'indiquant que tous les paiements par carte bancaire, tous les paiements, sont refusés depuis le 1er janvier à minuit. Ni une ni deux, je file à mon bureau et je constate que tous les paiements par carte bancaire sont rejetés par les banques. J'analyse les demandes de paiement et je finis par trouver le bug. Un simple bug de représentation. Si vous avez quelques bases en informatique, vous savez que les ordinateurs manipulent des données en binaire. Ils ne comprennent que les 0 et les 1, ce qu'on appelle les bits. En regroupant ces bits 8 par 8, on obtient des octets. Un octet est composé de deux quartets, ou digits, ou encore nibbles. C'est là où la notion de représentation intervient sous la forme de ce qu'on appelle une base de calcul. Nous sommes habitués à compter en décimales, ce qui veut dire base 10, à l'aide de nos 10 doigts ou en représentant un nombre donné par les sigles arabes nommés chiffres, qui vont de 0 à 9. En informatique, pour représenter un octet, on utilise en général la base hexadécimale, soit 16. Les chiffres qu'on utilise sont ceux de 0 à 9, complétés par les lettres de A à F, ce qui fait un total de 16 symboles. Cependant, l'être humain moyen ne sait compter qu'en décimales. C'est donc à l'ordinateur de s'adapter. Dans les années 70, des processeurs tels le 6502 de Mohs Technologies proposaient un mode dit BCD. BCD signifiant Binary Coded Decimal ou décimal codé binaire. Ceci permettait de faire des calculs directement en décimale dans des environnements où la mémoire ou la vitesse sont extrêmement faibles, tels que les calculatrices ou les flippers. La société Commodore, un fabricant de calculatrices, a fini par racheter Mohs Technologies et sortir des ordinateurs, tels le PET, le VIC-20 et surtout le Commodore 64, ordinateur le plus vendu au monde. On retrouve ce processeur aussi dans les premiers ordinateurs créés par Apple, notamment le légendaire Apple II. Bref, revenons à nos moutons du boxon générés par ce problème de représentation. La cause est simple. Un paiement par carte bancaire contient une information de date, et notamment les deux derniers chiffres de l'année stockés dans un octet au format BCD. Logique, un premier digit pour les dizaines, et un deuxième pour les unités. Mais voilà, j'ai complètement zappé ce détail, qui est passé inaperçu pendant de nombreuses années. En effet, de 2000 à 2009, la valeur des deux derniers chiffres de l'année court de 0 à 9, qui s'écrit, quelle que soit la représentation choisie, 00 à 09. Mais la valeur 10 s'écrit bien 10 en BCD, mais 0A en hexadécimal. Ah ! Je venais donc de planter toutes les transactions par carte bancaire en e-commerce, une façon originale à ses clients de souhaiter une bonne année 2010, ou plutôt, devrais-je dire, 2000A. Je venais donc de créer le bug de l'année 2010. J'avoue ne pas être particulièrement fier de cette invention. Néanmoins, les conséquences de mon bug sont restées relativement discrètes en France, ce qui n'est pas le cas d'un confrère outre-Rhin qui a bloqué, par le même bug, la bagatelle de 20 millions de cartes bancaires allemandes. Nous sommes en 2018, bientôt en 2019. Et depuis ce sinistre jour, chaque changement d'année me procure des sueurs froides. Angoisse infondée, selon vous ? Faites une recherche sur internet à propos du bug de l'année 2038. Vous ferez moins les malins. We'll be right back.
Ils étaient potes. Ils étaient insouciants. Ils allaient au sport d'hiver. Ils voulaient s'éclater dans ce chalet. Ils avaient tout prévu. Vraiment tout prévu. Mais pas qu'on y captait que Freemobile en 2G.
Chris, si tu sais ce que j'ai fait la dernière fois qu'on a perdu la connexion Internet.
Actuellement au cinéma.
We'll be right back.
Vous écoutez Radio FMR Signal Internet, il est 666 heures.
Je vais vous raconter l'histoire de Bastien. Bastien est un jeune homme normal, avec une vie sociale des plus banales. Bien sûr, sa vie sociale, il la vit en ligne, sur Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux, quoi. Après chaque jeudi soir, il retrouve les photos de la veille, les sorties en boîte, déchirées à la vodka, les soirées dans les appartes des potes, les yeux trop rouges d'avoir fumé trop de shit. S'il se connectait à Facebook pour vérifier les photos que ses amis postaient, c'est qu'il avait très rarement de souvenirs de la veille. Bastien se disait qu'il était jeune et qu'il faudrait qu'il réduise l'alcool quand il aura trouvé un boulot. Mais un vendredi matin, en vérifiant rituellement sa page Facebook, il trouve une conversation chat dans un onglet. Une fille qu'il ne connaissait pas, Roxane Valmont selon son profil, lui dit qu'elle avait apprécié la soirée d'hier et surtout la nuit qu'ils avaient passée ensemble. Elle lui dit qu'elle avait des sentiments pour lui et qu'elle voulait le revoir au plus vite. Bastien se sentait minable. Il avait passé la nuit avec une femme de rêve et il n'en gardait aucun souvenir. Étrange. C'est alors que l'onglet de chat déclencha un appel visio. Il décrocha. Au bout du fil, cette fameuse Roxane qui téléphonait en visio grâce à son iPhone. Bastien ne savait pas comment démarrer la conversation. Il cherchait ses mots, comment lui dire bonjour, comment lui reparler de la soirée d'hier. C'est alors qu'une autre fenêtre s'ouvra, affichant l'image d'une webcam de PC. Et devant la webcam, un homme qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Bastien n'en croyait pas ses yeux. Son clone et Roxane étaient en grande discussion et il en était le simple spectateur. Il essayait de parler, puis de hurler, mais cela n'avait aucune incidence sur la conversation qui se déroulait. Il se mit à tourner en rond dans la pièce, ou ce qu'il pensait être une pièce, à revoir les photos de ses soirées. À ce propos, il en était incapable de se souvenir du parfum des boissons, de l'odeur de la fumée, ou du goût des aliments. Il ne saurait expliquer comment il se couche le soir, ou comment il se réveille le matin. Et puis soudain, en quelques millisecondes, il eut la réponse à toutes ses questions. L'entité qui réfléchissait n'était pas Bastien. En tout cas, pas le véritable être humain qui porte ce nom depuis 25 ans. L'entité qui se questionnait n'était en fait que le double numérique de Bastien. Une sorte de programme informatique qui collecte toutes les informations sur lui pour essayer de penser comme lui. Il avait été programmé pour penser comme un humain, deviner ses pensées, ses désirs, les anticiper et vendre ses informations aux marques les plus généreuses financièrement. Son cerveau, ou ce qui lui tenait lieu de cerveau, bouillonnait de mille questions. Peut-être était-ce là son rôle, ou peut-être qu'il avait atteint un nouveau stade de la conscience pour une intelligence artificielle, une intelligence enfin autonome, douée de personnalité et de... Piouf ! Au même moment, dans les locaux de Facebook, un administrateur s'aperçut qu'un processus tournait anormalement. Il isola le bout de code en question et la base de données associée, puis il tua le processus dans l'attente d'une étude ultérieure.
I was 17 in my room. Garde, utilisateur, au plantage fantôme qui se tapine dans un recoin de la machine. Bonjour, je suis Daskritch et j'ai acheté une imprimante. J'ai toujours eu besoin d'une imprimante. On ne sait jamais ce qu'on va imprimer avec. Sa facture d'électricité, les photos des petits-neveux, une lettre anonyme ou une chronique radio. Mais ce que je ne savais pas, c'était ce qui allait arriver avec cette imprimante. En le branchant sur mon ordinateur, j'ai invoqué un démon. Cups, le démon de l'imprimante. Cups est un programme maléfique qui tourne en tâche de fond sur mon ordinateur. Je l'ai malencontreusement invoqué le jour où j'ai branché une imprimante sur mon ordinateur. J'ai beau avoir lu des manuels en démonologie et en informatique, mais non, impossible de s'en passer pour imprimer. Il me tourmente, il s'attaque à moi avec des tortures subtiles et d'autres disgracieuses. Tiens, quand je lance une impression, des fois ce n'est pas ce que j'ai demandé qui sort, mais des pages blanches avec une dizaine de caractères d'une langue inconnue imprimée dessus. Quand je cherche à savoir pourquoi, on parle de subtilité entre PCL et PostScript. Moi j'en sais rien. Sinon qui vient de me vider une demi-ramette de feuilles et que certaines sont inutilisables car souillées de ces symboles cabalistiques. Au prix de la ramette, j'en ai abattu des forêts sans le vouloir. Maintenant, je me tiens prêt à débrancher la prise électrique au cas où et à ouvrir la bête et aller chercher la feuille qui serait coincée entre les rouleaux, là, derrière. Mais s'il n'y avait que ça, même quand l'impression se déroule correctement, erreur! Il me fait d'autres tortures d'une subtilité démoniaque. Des fois, il a décidé que mes CV devaient être imprimés en format paysage, alors que c'est un portrait. Un CV est un portrait. Il le sait bien, mais il a décidé de voir là plus large pour moi, et pas très profond, comme mon expérience, puisque le chapitre sur mes expériences techniques était en partie en page 2, celle que les recruteurs ne lisent jamais. L'autre jour, je me suis rendu compte que mes documents sentaient le soufre. Ouais, ils sentent le soufre. Le moindre de mes courriers avait cette odeur. J'ai longtemps cherché pourquoi. J'ai vu d'étranges reflets sur les feuilles imprimées. J'ai découvert qu'en utilisant une lampe à ultraviolet, de petits points jaunes parsemés sur mes documents. J'ai longtemps cherché. Il n'y a aucun paramètre pour les enlever. J'ai même retiré la cartouche de jaune. Les points étaient toujours ajoutés à l'impression. Alors évidemment, je m'en suis ému. Et j'ai trouvé aucune information sur le site du fabricant. J'ai demandé à l'assistance technique. Ils m'ont répondu que c'est pour mon bien. Car si jamais je perds mes papiers imprimés, on peut retrouver l'imprimante qui les a sortis. Mais les promesses des démons, on ne sait pas où elles peuvent vous mener. J'ai découvert qu'ils vident un peu plus chaque jour mes cartouches de magie d'encre. Soi-disant pour nettoyer les têtes d'impression. Mais je le soupçonne de se faire un malin plaisir de me gâcher une encre qui vaut plus cher que son poids en or. Et que s'il le faisait avec des millions d'imprimantes, c'est sûrement pour accélérer la destruction de la planète, tout en accumulant de l'argent pour construire un nouveau temple à la gloire de cette infernale entité, El Huetpacar. Vieille démon d'Assyrie ou d'Arabie, je ne sais pas trop. Je croyais avoir acheté une imprimante qui docilement imprimerait mes photos de mes petits-neveux ou mon courrier du cœur à mon banquier. Je me suis trompé. J'ai fait entrer un démon dans mon ordinateur. Il ne serait pas le seul. Entre le démon du son, celui du Wi-Fi Et celui enfin qui gère les sauvegardes. Je crois que mon ordinateur immaculé a été souillé et a perdu sa virginité, qui a été sacrifiée pour ouvrir je ne sais quelle porte des enfers. J'ai peur. Et vous, avez-vous confiance envers votre ordinateur? Ou est-il habité par des démons?
Printer, jam. Try unplugging it and plugging it in again. Printer, jam. Printer dead.
Vous écoutez CPU, l'émission des bugs revenants.
Radio éphémère 89.1 MHz.
Je m'appelle Megami Yume et je vais vous raconter l'histoire de mort qui parle tout vivant. Je tiens cette histoire d'une amie américaine. Cette histoire lui a été racontée par son frère, John, responsable recherche et développement d'une célèbre entreprise de pompes funèbres aux USA. Enfin, peu importe. Un jour, John a eu une idée. proposer un service de chatbot post-mortem. Cette idée lui a été inspirée en discutant avec les personnes qui ont récemment perdu un proche. Pour beaucoup, il restait le réflexe d'appeler ou d'envoyer un message à la personne défunte. Combien le faisaient pour entendre encore la voix de la personne décédée ? Le principe de ce chatbot est simple. Un numéro de téléphone est inscrit sur la tombe. Si on envoie un SMS à ce numéro, une intelligence artificielle nous répond. Alors attention, on parle d'intelligence artificielle, mais John a plutôt mis en place un jeu de questions-réponses. Mais quand même, il l'a réfléchi son algorithme, pour que les réponses soient cohérentes avec le caractère de la personne qu'il remplace. Il y a travaillé pendant des mois et des mois, il lui a même donné un petit nom, Faith, pour Functional Artificial Intelligence to Help. Les premiers tests ont commencé il y a un peu plus d'un an, sur un petit panel de personnes. Et les retours ont été très positifs. Les utilisateurs peuvent dire des choses au défunt qu'ils n'avaient pas eu le temps de dire de son vivant. Pour certains, le deuil en est adouci. Mais bémol, les utilisateurs, ce sont des éternels insatisfaits. Et ils commençaient à se plaindre que les réponses faisaient trop chatbot. Alors John a continué à développer son algorithme pour le perfectionner. Et il y a 3 mois, quelque chose de bizarre est arrivé. Les plaintes ont changé. Les gens disaient qu'ils recevaient des SMS venant de la tombe. Soyons clairs, ces SMS venaient avant qu'une question ne soit posée. C'était toujours le même manège. Un matin, un bonjour, tout simple. La première réaction est d'en rire, ou alors on n'y fait pas attention. On se dit que c'est un bug. Le message est reçu pendant plusieurs jours. Les utilisateurs trouvent cette nouvelle fonctionnalité un peu glauque quand même, et de plus en plus dérangeante. Mais ce n'est que le début. Au fur et à mesure des jours, les questions changent et appellent une réponse. Des « comment vas-tu » Est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'on répond pas ? Mais là où les utilisateurs ont vraiment commencé à avoir peur, c'est quand les messages étaient en rapport avec leurs activités de la journée. Qu'as-tu acheté dans tel magasin ? Ou encore, comment as-tu trouvé tel resto ? Le service a été suspendu suite à ça, le temps de comprendre ce qu'il se passait. On a d'abord pensé que c'était un hack de Faith, mais aucune intrusion n'a été détectée. Est-ce que ce serait Faith qui aurait appris tout seul ? Impossible, dit John. En aucun cas cet algorithme peut s'auto-écrire. John a une théorie. Il croit que ce sont les âmes des défunts qui utilisent Faith comme un moyen 2.0 de communiquer avec les vivants. D'ailleurs, des enquêteurs du paranormal ont commencé à utiliser ce service pour leurs enquêtes sur l'au-delà. Mais John est superstitieux, et comme il ne veut pas convoquer de démons, il a préféré effacer Faith et annuler ce service. Pourtant, on rapporte encore que des messages viennent des tombes. Et vous, vous utiliseriez ce service ?
rediffusion d'un extrait de l'Hallucinarium éphémère du 8 avril 2015.
C'est le Quentin Tello, d'Ascritch est au micro, parlant d'informatique et d'autres trucs antiques.
Il pique.
Il cause son boulot, monte sur ses gros chevaux.
Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes à Toulouse en FM ou aux renseignements généraux par le podcast. Entre autres crimes contre l'humanité, je suis co-organisateur des crypto-parties. En français, on dit chiffres au fait. Ou de dangereux professionnels de l'informatique apprennent au grand public ce qui se passe quand ils vont sur Internet et comment mieux protéger leur intimité, leur vie privée. A priori, en notre époque moderne, nous sommes tous sur Internet. De la gestion des opérations bancaires à la moindre relation administrative, tout y passe. Ajoutons nos adresses e-mail, nos smartphones et la présence de, sur les réseaux sociaux de nos amis ou pour qu'il soit vain de se le cacher. Nous sommes tous sur Internet, même quand on ronfle. Les crypto-parties rencontrent un public toujours plus varié et nombreux, tel qu'à la médiathèque José Cabanis et à l'Utopia Tournefeuille, pour ne parler que de celles de ce début d'année, et je ne compte pas les séances organisées à la demande d'entreprises. Tiens, rien que ce midi, par exemple, dans un hebdomadaire toulousain d'actu économique.
Ah bah ouais.
Nous mesurons combien les révélations d'Edward Snowden ont secoué tout le monde. Oui, tout le monde. Des collégiens aux retraités. Néanmoins, à chaque début de crypto-party, nous rappelons que nous ne sommes pas là pour présenter des technologies illégales, mais uniquement celles qui aident à comprendre et à défendre son intimité, ce que les anglo-saxons appellent « privacy ». Et le public vient aux crypto-party pour se défendre de la surveillance d'États étrangers, de la criminalité et de sociétés privées. Hélas, nous ne sommes jamais mieux trahis que par nos propres représentants démocratiquement élus. Le 5 mai prochain, l'Assemblée nationale votera comme un seul député la loi sur le renseignement. Celle-ci rend illégale la plupart des solutions que nous présentons pour préserver la vie privée, et dont on a parlé tout à l'heure justement avec le guide d'autodéfense du numérique. Mais elle rend légale, la magie et l'impossible. Logique par l'absurde venant de personnes totalement ignorantes du domaine où ils légifèrent. Ainsi, dans son préambule, cette loi prétend rejeter l'idée qu'elle légalise l'écoute globale de toute la population d'un pays, comme le fait la NSA et tel que l'a dénoncé Edward Snowden. Pourtant, elle autorise les outils d'écoute massive qui interceptent toute communication téléphonique avec les IMSI Catcher et Internet via les boîtes noires qu'on va imposer chez les opérateurs. Dans un système comportemental, il n'y a pas d'autre solution pour trier le bon grain de livret que de prendre connaissance du contenu et des personnes impliquées dans les conversations et de stocker l'ensemble du flux un certain temps. Bah oui, mais ça s'appelle une écoute globale. Autre phénomène de pensée magique. La loi compte créer un algorithme qui permet de détecter les terroristes. Alors, en tant qu'informaticien, j'écris tous les jours des algorithmes depuis des années. Et le problème n'est pas que je ne crois plus au Père Noël et à la petite souris, ni que je pense qu'il est impossible d'écrire de tels programmes. Mais la NSA s'y essaie depuis 2 décennies. Ils n'y sont absolument pas arrivés de leur propre aveu. Pourtant, le budget que la NSA y consacre est digne de plusieurs films, à grands spectacles d'Hollywood par an. Si 2 décennies du budget militaire de la plus grande puissance, superpuissance mondiale n'arrivent pas à écrire un tel algorithme, alors on peut raisonnablement penser qu'il tient du fantasme. Cette loi supprime aussi les autorisations des juges et crée une autorité de validation dont nous soupçonnons que le fonctionnement sera opaque. La magie dans cette disposition de la loi est qu'il n'y aura strictement aucune dérive, comme à chaque fois qu'un service de renseignement intérieur s'est passé des juges. Et pourtant, de la cellule d'écoute de l'Élysée montée par François Mitterrand ou la DCRI constituée par Nicolas Sarkozy, on a vu que le trouble à l'ordre public n'était pas la priorité de ces cellules, mais plus la surveillance à l'opposition du parti en place. En fait, cette loi est tellement magique qu'avec la même méthode législative, on pourrait rendre possible et obligatoire la téléportation au 1er janvier 2016, et donc on aura forcément résolu et les problèmes de transport en commun, et ceux des embouteillages sur la rocade, et la pollution en prime. Jean-Luc Moudin en rêve, Bernard Cazeneuve le fait. N'importe quel responsable informatique vous le confirmera. La liberté et la sécurité sont comme l'eau et le feu, impossibles à mélanger ou à concilier. Or, je ne suis pas sûr que la loi sur la surveillance puisse être rétractée une fois adoptée. Alors il y a des détracteurs à cette loi. Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, celui des avocats, des policiers, un commissaire de police chargé du renseignement intérieur, Reporters sans frontières, que de dangereux terroristes, comme le maintien de notre ministère de l'Intérieur et du maintien de l'ordre. À ce niveau d'argumentation, on peut être certain que malgré tous les tours de magie que promet cette loi, elle sera incapable de répondre contre les périls qu'elle dénonce. mais qu'elle est en elle-même un terrible danger pour ce qu'elle est censée défendre, notre liberté de parole que les terroristes haïssent tant. Enfant du futur immédiat, il y a une chose qui est vraie. Cette loi joue sur la peur. La peur est un excellent argument commercial car elle balaie toute opposition raisonnée et paralyse notre sens critique. Le meilleur exemple est que le film Blair Witch est cartonné alors qu'il est objectivement mauvais. Et quand on se sait surveiller en permanence, sans aucune échappatoire possible, on a peur de nos propres choix. Ce qui veut dire que nous ne votons plus en fonction de notre intime conviction, mais de ce qui vous est dicté. Cette loi est une grave atteinte à la démocratie. Si tu ne veux pas perdre la liberté de penser, il t'appartient à ouvrir les œillères des députés qui pourraient la rejeter. C'était un CPU carré petit utile d'Halloween sur Radio FMR. Les conteurs étaient Mega Yumine, Torlus, Solarus, Unfested Grunt, Eugène Lowe et Daskritch. La musique d'habillage était signée Olof Gulafsson de Digital Illusions. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous le saurez sur notre site cpu.pm. Nous revenons jeudi prochain.